Vous écoutez France Culture.
Merci beaucoup Olivier Denré. Prochain journal de la rédaction à 9h sur France Culture. Bonjour à tous et très bonne année 2014. Bienvenue dans le secret des sources.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Le premier numéro de l'année 2014 du Secret des Sources sur France Culture, franceculture.fr, Twitter et Facebook. Nous attendons d'ailleurs vos remarques et vos commentaires qui seront nombreux, j'en suis certain, puisque nous allons évoquer ce matin le traitement médiatique et journalistique de l'affaire, des affaires Dieudonné. Dieudonné, en parler ou le cacher? En parler, est-ce faire sa pub? Se taire, est-ce lui accorder une totale impunité? Que signifie ce geste, la quenelle? Quel mot pour qualifier et caractériser Dieudonné? Le débat est donc ouvert ce matin avec François Ducroux, rédacteur en chef de l'émission Complément d'enquête sur France 2, avec Denis de Montpion, rédacteur en chef du service société au Nouvel Observateur, et Adrien Séléka, journaliste à Express.fr. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
En cours d'émission, petit coup de fil à Jérusalem où Daphné Rousseau, journaliste à la radio publique Call Israël, nous dira comment la presse israélienne a rendu compte des faits et des polémiques autour de Dieudonné. Et puis ce matin, nos deux chroniqueurs, Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste en droit des médias, et Éric Chavroux, notre monsieur multimédia, puisque nous le verrons, la dieudosphère est particulièrement active sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Le générique de l'émission Complément d'enquête sur France 2. Nous sommes le jeudi 19 décembre. L'émission s'intitule « Médias, la dictature du rire » avec trois reportages consacrés aux auteurs de sketchs, aux relations des politiques avec l'humour et aux dérapages. Et c'est dans ce reportage-là, signé Yvan Martinet et baptisé « Quenelle et banane, l'indigestion », que l'on entend cette sortie sur notre confrère de France Inter, Patrick Cohen, et d'abord cette sortie sur Christiane Taubira.
Christiane Taubira, elle était meurtre. Elle a fait toute sa carrière sur la pleurniche des Noirs. Ouais, donc elle a dit François, enfin, elle a dit écoute, chita, fous le camp.
Mais ce qui obsède l'artiste, ce sont décidément les Juifs. Au détour de la plupart de ses sketchs, des salves antisémites, jusqu'à cette charge contre Patrick Cohen, l'animateur de France Inter, qui voudrait interdire l'humoriste d'antenne.
Et tu vois, lui, s'il m'entoure, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je t'entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz.
Voilà, et le reportage continue où l'on entend notamment la chanson de Dieudonné, Shoah Nanas, pour laquelle il a déjà été condamné en appel le 28 novembre dernier. François Ducroux, rédacteur en chef de cette émission Complément d'enquête sur France 2. D'abord, il faut expliquer les conditions du tournage de ce reportage par votre reporteur. Il l'explique, il est en caméra cachée. Pourquoi ? On est au théâtre de la Main d'Or à Paris, le théâtre de Dieudonné.
Nous avions contacté Dieudonné qui a refusé donc de participer à notre émission, qui a refusé de laisser entrer une caméra dans son théâtre de la Main d'Or. Et on a estimé qu'il était légitime puisque ce spectacle était public, il suffisait de payer pour le voir. On a payé notre place et on a transmis l'information au public qui n'avait pas pu y entrer, tout simplement de voir ce que raconte Dieudonné dans son spectacle. Voilà. Donc, d'ailleurs, cette blague entre guillemets sur Patrick Cohen, ce n'était pas la première fois qu'il la faisait. Apparemment, ça fait partie intégrante de son spectacle actuel depuis plusieurs semaines.
Est-ce que vous vous posez la question au moment du montage final de dire on diffuse la blague ou pas? Ou est-ce que pour vous, il faut la diffuser parce qu'elle existe?
Alors pour nous, en tant que journaliste, la question se pose, sur un plan déontologique, elle se pose pas tellement. On se dit, oui, Il faut diffuser cette blague, bien qu'elle soit évidemment extrêmement blessante et qu'elle constitue un appel à la haine raciale, une blague antisémite, parce qu'elle est constitutive d'une information sur Dieudonné et sur ce qu'il fait dans son spectacle. En revanche, sur le plan juridique, on s'est posé la question, car une autre émission sur notre chaîne avait eu des problèmes en faisant la même chose avec une élue du Front National qui avait fait une blague raciste sur Madame Taubira sur son site Facebook, sur sa page Facebook. Et Envoyé spécial a eu des problèmes juridiques. Il a été attaqué par la LICRA, je crois. Il avait été attaqué pour avoir propagé comme diffuseur de propos racistes.
Est-ce que ça a été facile pour votre reporter de travailler? On voit qu'il va interviewer un spectateur de Dieudonné qui dit « Je ne pars pas à France 2. France 2 est une chaîne sioniste ».
Oui,
il a eu du mal à travailler autour du spectacle de Dieudonné.
Il a eu du mal à recueillir des propos à la sortie. Il n'a pas été menacé. En revanche, il a reçu des menaces de mort après l'émission, ce qui n'a pas lui semblé d'ailleurs l'étonner, compte tenu des contacts qu'il avait eus par mail avec pas mal de gens de la dieudosphère, comme vous dites.
Avant de donner la parole à nos confrères de l'Express.fr et du Nouvel Observateur, on va s'arrêter sur la quenelle. Plusieurs articles ont été consacrés à ce geste, un bras tendu le long du corps. Éric Chavroux, cette quenelle, on l'a vu à toutes les sauces, si je puis dire. Alors, petit arrêt sur image, sur ce geste qui est devenu viral.
Ça a commencé en 2005 dans un spectacle sur la laïcité. Le geste apparaît, le bras droit tendu vers le bas pendant que la main gauche vient toucher l'épaule droite. Et Dieudonné parle à l'époque d'un dauphin qui va, je cite, « nous foutre sa nageoire jusque-là ». Nouvelle apparition ensuite en 2008. Mais en fait, c'est l'année suivante que ça prend une connotation politique qui devient un bras armé, comme disent certains, puisque Dieudonné est candidat aux élections européennes sur une liste anti-sioniste et il s'affiche clairement en chemise noire, très fier de son geste. Et il déclare alors à Libération se réjouir, je le cite évidemment, de glisser sa petite quenelle dans le fond du fion du sionisme.
C'est toujours très élégant généralement chez Dieudonné. Hein.
Très élégant. Quant au mot, alors le mot, c'est un ancien ami de l'humoriste qui lui a confié aux Inrock que Dieudonné avait baptisé ça quenelle en référence au plat dont la forme rappelle celle d'un suppositoire.
CQFD.
On reste dans l'élégance. Mais en fait, aujourd'hui, l'intéressé, Dieudonné, il parle plutôt d'un geste révolutionnaire, d'un bras d'honneur détendu. Et dans une vidéo d'août dernier, il explique avoir été, je le cite encore, sous le feu d'une inspiration un peu baroque et il se dit dépassé par le phénomène.
En initiant mes contemporains à cette pratique fantaisiste, je ne pouvais pas imaginer que derrière la façade un peu anodine et potache se cache un acte subversif capable d'incarner le déclic qui sera à l'origine de l'émancipation des masses laborieuses. Là, c'est un peu compliqué la phrase, mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas que le mouvement de la quenelle aille aussi loin. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je n'ai pas une quenelle qui m'arrive. Mais aujourd'hui, je dirais que ça ne m'appartient plus. Ce concept, cette formule magique ne m'appartient plus. Elle appartient à la Révolution, hein, qui arrive. Hein. Écoutez, oui, elle est là.
Et précisons que Dieudonné lit son texte dans cette vidéo.
Et désormais, Eric, on le disait, cette image est devenue virale, elle s'est propagée.
C'est un signe de ralliement, une mode pour certains même dans le monde entier. Une image particulièrement encouragée par son instigateur qui a même organise une cérémonie avec des trophées du même nom et puis un négoce, très clairement, puisque la marque quenelle a été déposée par sa femme avec moult produits dérivés. Et le défi, en fait, pour les amateurs, c'est de provoquer. Alors, en glissant ce geste à la télévision, par exemple, ou sur un terrain de foot. Et alors, si le côté anti-système fait l'unanimité, en fait, ce qui interroge beaucoup, c'est le contexte. Par exemple, que dire quand on voit cette quenelle devant une synagogue ou devant l'école juive où Mohamed Merah a tué un rabbin et trois enfants? Cette semaine, le Canard Enchaîné et puis un blogueur de Mediapart révélaient d'ailleurs une autre origine possible de ce geste. Ce serait la reprise par Dieudonné de ce que faisait le docteur Follamour dans le film de Kubrick de 1964. Souvenez-vous, c'était ce gag récurrent dans le film, quand Peter Sellers freinait en fait des saluts hitlériens avec sa main gauche.
Il essayait de retenir son bras. Merci Eric Chavroux, on vous retrouvera tout à l'heure en cours d'émission. On va reprendre juste la chronologie des faits. C'est donc le jeudi 19 décembre que France 2 diffuse ce complément d'enquête. Le lendemain, vendredi 20 décembre, Radio France signale les propos sur les chambres à gaz au procureur de la République de Paris. Signale les propos. Depuis, le procureur a ouvert une enquête préliminaire. Le jour de Noël, mercredi 25 décembre, on apprend que 6 jeunes gens de 18 à 22 ans étaient mis en examen pour avoir voulu se venger de personnes qui avaient fait la quenelle sur Internet. Vendredi 27 décembre, Manuel Valls annonce qu'il veut tout faire pour interdire les spectacles de Dieudonné. À partir de là, tous les médias s'emparent du sujet. Le sujet monte. Adrien Séléka de l'Express.fr, expliquez-nous, vous décidez quand, vous, à l'Express.fr, de consacrer un certain nombre d'articles, assez documentés d'ailleurs, à Dieudonné.
Alors déjà, c'est quelque chose quand même qu'on a vu arriver. C'est-à-dire qu'on n'est pas surpris aujourd'hui qu'il y ait pu avoir un élément déclencheur qui fait que ça s'emballe, mais c'est quelque chose qu'on voit venir. Le phénomène Dieudonné, il existe sur Internet depuis assez longtemps, depuis 3 ans, 4 ans. On parlait de 2008-2009. À partir de ce moment-là, on va voir le terme quenel. Alors aussi bien le geste, mais que le terme qui peut être utilisé assez fréquemment dans des titres de vidéos sur YouTube. Donc là, je précise pour les auditeurs, ce n'est pas des vidéos où on va voir le geste, vraiment. C'est des vidéos où on a un titre qui va être une personnalité, mais une quenelle à une deuxième personnalité. Mais là, la quenelle, c'est va lui clouer le bec, on va dire. Donc là, ça va être aussi bien Dieudonné, quand même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, qui va la glisser à peu près la terre entière, que d'autres personnalités. C'est repris par des militants du Front National, c'est repris par des gens d'autres mouvances aussi. Et voilà, ça c'est un terme qu'on va se multiplier. Donc nous, on voit ça. On a plusieurs sites internet qui sont un petit peu intéressés au phénomène. Je pense que quand même, il faudrait le citer. Slide.fr s'y est intéressé il y a quelques mois, avec un article là aussi qui était assez bien documenté. Un petit peu à contre-temps, mais justement, c'était intéressant de le voir parce que c'est quelque chose qu'on voyait un peu en toile de fond. Et là, le moment vraiment qui fait que nous, on se dit vraiment, il faut se saisir du sujet, au-delà des petits épisodes qui ont été un petit peu essaimés ces dernières semaines, c'est vraiment quand on a un ministre de l'Intérieur qui réagit et qui dit, là, je veux faire quelque chose. On a Manuel Valls qui, le vendredi, dit, on va y aller.
Ça a été pareil au Nouvel Observateur, Denis de Montpion. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du service Société et l'Obs paru cette semaine consacre plusieurs pages à Dieudonné.
Oui, parce qu'en réalité, l'enquête sur Dieudonné était en cours depuis un moment, parce qu'on savait effectivement, on prévoyait de faire quelque chose à un moment donné, un peu plus tard, peut-être on aurait. Et effectivement, les propos de Manuel Valls ont été quand même un déclencheur, parce que là, l'aspect juridique a clairement basculé sous l'aspect politique, et on a un petit peu accéléré la publication d'une semaine. Parce que bon, très clairement, il y avait eu accélération des événements.
Quoi. Excusez-moi, mais on sait tous comment ça se passe. On est entre Noël et le jour de l'an. Comme on dit, l'actu est un peu calme. Est-ce que ça joue aussi ? Est-ce qu'à un moment, il faut remplir les journaux ? Et est-ce qu'on ne se dit pas, oui, il y a un événement ?
On avait des sujets, le journal était monté. Les pages qu'occupe cette semaine Dieudonné étaient totalement bouclées, etc. Il n'y avait aucune difficulté. On n'avait pas de mal à tout ça était programmé. Alors, effectivement, Dieudonné, on l'a programmé avec un peu plus tard, quoi. Donc, on a juste changé le j'allais dire l'agenda, c'est tout. Mais non, il n'y avait pas, disons, de trop grand creux dans l'actualité. Mais il est vrai que l'emballement qu'a pris cette affaire avec les déclarations de Manuel Valls sur l'interdiction, qui pose d'ailleurs la question de la liberté d'expression, a accéléré les choses.
Adrien Séléka.
Nous, sur Internet, on est vraiment problématique. On a un média de flux. Évidemment que le sujet, à partir du moment où le ministre s'en saisit, on va le traiter. On va le traiter, on va en parler, les épisodes, les réactions vont être traitées les unes après les autres. Après, évidemment qu'une période de creux fait que la place n'est pas exactement la même. Nous, ça va plutôt être que des articles ont pu faire la une du site à des moments donnés dans la journée. Peut-être que si on avait eu, même sûrement, d'autres actualités très fortes, on n'aurait pas mis la quenelle de Dieudonné au-dessus d'événements beaucoup plus importants. Ça, c'est une évidence.
François Ducrot, France 2.
Imaginons que, comme un autre Noël funeste, il y a eu le tsunami pendant cette période. Je pense qu'on aurait beaucoup moins, voire très peu, parlé de la quenelle et des propos de Dieudonné.
Est-ce que ça veut dire qu'on aurait surdimensionné l'événement ou que finalement, c'est un événement qui n'est pas plus important que un autre geste sinistre de Dieudonné quand en 2008, il invite Robert Forisson sur la scène du Zénith pour lui remettre, je cite, le prix de l'insolence avec, à côté de lui, un comédien habillé d'un pyjama rayé de déporté.
Mais là encore, ce Denis de Montpion. Ce qui fait la différence, très clairement, parce que quand, en effet, il invite Forisson à se produire sur scène à ses côtés...
Avec Jean-Marie Le Pen dans le public.
Voilà. Que se passe-t-il à ce moment-là? Les institutions fonctionnent, il y a une plainte, le procureur d'ailleurs s'est saisi de l'affaire, il y a une enquête préliminaire, des poursuites engagées, il sera condamné. Et voilà, de toute façon, jusqu'à présent, n'oublions pas que Dieudonné a été condamné, poursuivi à de très nombreuses reprises, et ce n'est que je crois qu'à partir de 2006 qu'il a été condamné pour la première fois.
Il a déjà été condamné 10 fois d'après un décompte de rue 89.
Voilà, et en effet, ça s'est accéléré au cours des dernières années, puisqu'il a réitéré ses propos antisémites à plusieurs reprises, et voilà, mais ça a fonctionné de ce point de vue-là. Là encore, c'est la connotation politique qui a donné cette dimension à l'affaire.
Adrien Seleka.
Il y a une autre différence entre 2008 et 2013, c'est qu'en 2008, on est encore sur Dieudonné. Alors, je ne vais peut-être pas dire tout seul, mais quand même, Dieudonné avec peu de troupes. Là, c'est pas tant la quantité qui va nous intéresser, mais c'est le fait que on ne sait pas trop comment réagir juridiquement, si on veut engager le débat sur le plan juridique, aux quenelles qui vont être envoyées par des supporters de Dieudonné. Et c'est aussi, je pense, quand même le sens de l'action de Manuel Valls quand il commence à s'y intéresser. C'est
Dieudonné, un phénomène de société.
Ben voilà, il n'y a pas que Dieudonné dans l'histoire. Il y a des internautes qui sont autour, des internautes qui répandent d'autres propos, d'autres gestes un petit peu partout. Et il y a un moment où effectivement, on se pose la question de comment lutter contre. Après, c'est pertinent, c'est pas pertinent, mais je pense qu'il y a ce souci-là, en tout cas, de la part de Manuel Valls.
C'est vrai que sur le plan juridique, ça va être très difficile de qualifier pénalement la quenelle.
Oui. D'ailleurs, voilà. il y a un député qui souhaite déposer une proposition de loi modifier pour la faire interdire. Voilà. On verra ce que ça donne. Alors, messieurs, vous avez fait mon boulot presque, puisque vous avez trouvé la transition avec Fabrice Lorvaux, l'avocat du secret des sources, spécialisé dans le droit des médias. Fabrice Lorvaux, d'abord, la liberté d'expression des comiques est-elle plus grande que celle des autres ?
Alors, il faut déjà rappeler que la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale, essentielle pour la démocratie, qu'elle inclut pour tous le droit de heurter, le droit de choquer ou même d'inquiéter autrui. Cependant, cette liberté n'est ni générale ni absolue, elle a des limites. Et ces limites sont fixées par la loi française, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces limites sont essentiellement celles de l'extrémisme, c'est-à-dire la liberté d'expression, les limites de la liberté d'expression sont franchies lorsqu'on rentre dans un discours de haine qui est basé sur l'intolérance. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le droit commun pour tout le monde. Et on peut effectivement s'interroger sur le droit du bouffon, qui est effectivement celui qui va être dans la caricature, dans l'excès. Alors ce droit, il existe. Il existe et il n'est pas infini. Mais dans le cas de Dieudonné, on doit quand même s'interroger sur le point de savoir si c'est vraiment un bouffon. Parce que le bouffon, c'est quand même celui qui est à la fois indépendant et désintéressé. Et la difficulté, le bouffon critique le roi. Le bouffon ne veut pas remplacer le roi. Le bouffon ne cherche pas à être ministre à côté du roi.
Et Dieudonné, on l'a rappelé avec Éric Chavroux, a voulu être candidat aux élections européennes.
Voilà, donc là, effectivement, au niveau du droit du bouffon, je pense qu'il y a un petit peu... Un détournement, venir revendiquer ce statut alors qu'on a un intérêt dans l'humour qui est de faire la promotion d'une vision politique.
Et un intérêt financier qu'on a également évoqué.
Et aussi, oui, mais l'humoriste n'est pas forcément désintéressé au niveau
financièrement
financier.
Parlant, c'est vrai.
Là, le désintérêt, c'est vraiment d'être critique pour se moquer, mais pour appeler le roi à réfléchir sur lui-même plutôt que là, essayer de prendre sa place.
Denis de Montpion, du Nouvel Observateur.
Non, parce que vous évoquiez le fait qu'il soit présenté aux élections européennes. Dans le passé, on a eu Coluche qui a voulu se présenter au présidentiel, enfin, qui avait quand même des affiches, était très avancé dans le processus quand même. Mais donc ça, après tout, chacun est libre de se présenter aux élections qu'il veut. Dans le cas de Dieudonné, non, ce qui est beaucoup plus abject, c'est les déclarations concernant Patrick Cohen, quoi. Enfin, le journaliste, c'est là vraiment, c'est clairement une attaque personnelle qui d'ailleurs, enfin, je ne sais pas, on a un spécialiste là, mais il ne fait aucun doute qu'il sera, condamné pour ça. Quoi.
C'est... Oui. Alors,
Maître Fabrice Lorvaux.
Belle transition. Il faut rappeler que seul le tribunal peut déclarer si les limites de la liberté d'expression ont été franchies ou pas. Alors, on peut avoir une opinion, on peut avoir un sentiment. On considère qu'il est effectivement fort probable que le tribunal aille dans ce sens, mais c'est aussi au tribunal de se prononcer. Et pas forcément, puisqu'on parlait d'emballement médiatique, pas forcément de sombrer dans une sorte de ou de procès médiatique et venir plaider la certitude de la condamnation, ça peut aussi avoir des effets pervers. On a vu le site internet de Dieudonné qui a été hacké. On a vu des alertes à la bombe dans son théâtre. Bon, là, je trouve que la réponse à un comportement blâmable est elle aussi illégale.
Mais justement, on va revenir dans quelques minutes dans le secret des sources sur l'engagement des journalistes et le choix des mots pour qualifier de données. Mais puisqu'il est 8h30 sur France Culture et puisque vous êtes bien sur le secret des sources, on va se faire une petite respiration musicale. France Culture, franceculture.fr, c'est le secret des sources. She is walking with me from the house of red. I hear a child crying, folks is heading home. That prings from the jaws and the forest moves, but it won't share the secret. King and Cross par l'artiste islandais Asger. Asger qui vient de sortir l'album In the Silence il y a 4 mois. On parle ce matin dans le secret des sources des polémiques liées à Dieudonné et on va prendre la direction de Jérusalem. Bonjour Daphné Rousseau.
Bonjour Frédéric Mettezon.
Vous êtes journaliste à la radio publique Call Israël. Vous avez pris quelques minutes dans une actualité israélienne très chargée pour nous offrir vos lumières sur France Culture. Daphné Rousseau, est-ce que la presse israélienne a rendu compte de ces polémiques Dieudonné ?
Oui, ça fait d'ailleurs pas très longtemps, hein, ça fait un peu moins d'une semaine. Ici, le phénomène a fait irruption avec un des justiciers français de la Ligue de Défense Juive qui a mené ce commando à Lyon contre des militants pro-Dieudonné parce qu'il est venu se réfugier en Israël et qu'il a fait la tournée des plateaux télé pour dire qu'il se sentait menacé, qu'il se sentait en danger en France. Ici, on l'a vu, donc, visage flouté, témoigner, puis expliquer au public israélien ce que c'était que ce phénomène de la quenelle. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu l'affaire Anelka qui a beaucoup fait parler ici l'éditorialiste de Dar. Mon confrère Antiel Pfeffer, qui visiblement est aussi un grand fan de football, a consacré un long éditorial à Dieudonné. Je vous donne une ou deux phrases que j'ai relevées de cet éditorial dans Haaretz. L'éditorialiste y voit clairement pas vraiment un symbole nazi, il parle plutôt de quelque chose d'amorphe, un fuck you à la française, dit-il. Il explique aussi que c'est très peu probable que toutes les personnes qui postent ces photos sur Facebook soient nécessairement des antisémites. Il pense que pour les jeunes français, les juifs et le système libéral sont devenus des symboles d'un establishment répressif. Il dit arrêter l'hystérie. Il suggère de ne surtout pas légiférer en matière de gestes type quenelle. Il dit que ça rendrait ça encore plus hype. Il dit aussi que l'antisémitisme, certes c'est mal, mais que les Français devraient surtout faire passer le message, c'est mal, mais c'est surtout pas cool. Voilà, donc comment a été traité depuis quelques jours ici cette affaire de la quenelle en Israël.
Donc ça veut dire, Daphné Rousseau, si je vous ai bien comprise, que c'est pas forcément des propos particulièrement déplacés sur les chambres à gaz ou l'éventuelle interdiction de son spectacle par Manuel Valls qui a fait réagir la presse israélienne.
Non, c'est pas. Dieudonné, d'ailleurs, était complètement inconnu ici hein, jusqu'au début de semaine. C'est effectivement plutôt cette reprise hein, du geste dans la sphère internationale, pas dans la sphère franco-française, qui n'a pas beaucoup intéressé hein, jusqu'ici les médias israéliens, que ce soit les médias de gauche d'ailleurs ou les médias de droite. C'est à partir du moment où on a commencé à en entendre parler à l'étranger qu'aussi ça s'est mis à intéresser ici les journalistes israéliens.
Et justement, Dieudonné, il est présenté comment en Israël? Comme un comique, un acteur, un polémiste, un homme politique?
Alors on dit comique, souvent ça va d'ailleurs avec l'adjectif antisémite. Il y avait une double page dans le journal Maariv consacré à Dieudonné cette semaine avec ce titre « Le bras long du comique antisémite français ». Le journaliste d'ailleurs de Maariv disait que c'était seulement la face cachée de l'iceberg. Ici on n'hésite pas à rappeler quelque chose que j'ai l'impression que vous ne rappelez pas beaucoup en France, c'est que Dieudonné c'est aussi une dimension politique. C'était un candidat bien malheureux d'ailleurs aux dernières ou aux avant-dernières, je ne sais pas, élections européennes.
En 2009.
C'est une dimension qui intéresse particulièrement, effectivement.
Et en Israël, d'ailleurs, le débat est devenu politique.
Il est devenu politique, oui, très récemment, hein, ce mardi, parce qu'il y a une commission parlementaire, une commission de la Knesset, qui a décidé de changer complètement son agenda pour se consacrer au thème, je cite, des actes à connotation antisémite. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a d'ailleurs présidé cette réunion et il s'est efforcé de faire une distinction qui n'est pas très claire ici, hein, dans la tête de beaucoup d'Israéliens. Il s'est efforcé de dire que non, la France n'était pas en tant qu'État antisémite, que oui, il y avait beaucoup d'antisémitisme en France. Voilà, il a essayé de faire cette distinction. Il a dit que ce phénomène se produisait dans un pays démocratique, respectueux, ami d'Israël. C'était, je pense, important pour lui de le dire, sachant qu'effectivement, ici, pour beaucoup d'Israéliens, et on le voit d'ailleurs dans les réseaux sociaux, on le voit dans les commentaires en dessous des quelques articles qui ont été consacrés à Dieudonné, la France est un repère d'antisémites. Les Juifs, ils sont en danger. Il faut partir très vite. Ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup et qui plaît beaucoup, d'ailleurs, aux Israéliens qui voudraient bien accueillir de plus en plus de juifs français. Cette affaire Dieudonné, en quelque sorte, elle tombe même plutôt bien, puisque cette même commission de la Knesset a annoncé à la fin qu'elle a lancé un plan pour faire venir, écoutez bien, 42 000 juifs français en Israël pour les trois prochaines années à venir. C'est un chiffre énorme.
Sachant qu'il y en a eu à peu près 3 000 l'an passé. Merci beaucoup, Daphné Rousseau, en direct de Jérusalem. Daphné Rousseau, journaliste à la radio publique Kol Israël. Messieurs, je demandais à notre consoeur comment Dieudonné était qualifié, quels étaient les mots utilisés. Je vais vous poser la même question après avoir entendu ce petit florilège de journaux, radio et télé.
Incitation à la haine raciale, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les propos de Dieudonné concernant Patrick Cohen de France Inter. Nous essaierons de cerner un peu mieux l'humoriste contesté avec Mathilde Dehimi et Laure de Vulpian.
Autre enquête ouverte cette fois contre l'humoriste Dieudonné pour incitation à la haine raciale et injures.
Évoquant le journaliste de France Inter, le polémiste semblait regretter que les chambres à gaz n'existent plus.
La quenelle, un signe de soutien à l'humoriste controversé Dieudonné.
C'est Vincent Abouchard, le réalisateur du Secret des Sources, qui a écouté beaucoup, beaucoup de journaux radio et télé. Et très majoritairement, on l'entend, Dieudonné est qualifié d'humoriste. Alors, messieurs les journalistes, chers confrères, comment qualifier Dieudonné? Qui souhaite répondre? Adrien Seleka pour l'Express.fr.
C'est avant tout un humoriste, alors c'est son premier métier. Après, effectivement, il est humoriste, il est polémiste aussi, il est controversé aussi sans doute.
Est-ce que vous vous êtes posé la question à l'Express.fr de dire est-ce qu'il faut qu'on le qualifie différemment ou pas, non?
On a réfléchi à quel mot employer. Alors ça va à la fois la manière de le qualifier lui. Effectivement, on s'est dit, on a discuté en conférence de réaction. C'est un sujet, les avis ne sont pas forcément complètement unanimes, mais on est quand même assez largement tourné d'accord sur le fait qu'il fait laisser ce terme humoriste. Et pas forcément tout de suite y accoler un suffixe, parce que sinon on a vraiment tout de suite l'impression qu'on le dénigre avant même d'en parler. Après, par contre, il y a un deuxième sujet qui est aussi du champ lexical qu'on va employer. Quel mot on va coller à Dieudonné, et là ça va dépendre aussi du thème de l'article, mais ce monsieur a tombé trop rapidement dans dans le nauséabond, etc. Parce qu'il y a un moment où c'est la même chose, c'est des choses qui sont très vite reprochées. Les mots, on parlait de la biosphère, la biosphère, c'est des milliers d'internautes qui sont très promptes à relever chaque mot, à essayer de repérer chaque petit détail qui dépasse d'un article, à aller ensuite le jeter à la figure des gens qui l'ont écrit, des médias qui l'ont porté. Donc, c'est vraiment en tout cas un sujet sur lequel il faut faire attention.
François Ducroux, France 2.
C'est vrai que humoriste, on l'a entendu, est le terme le plus couramment employé. C'est quand même son métier. C'est avec ça qu'il gagne sa vie. Alors après, on peut discuter de son humour. Manuel Valls l'a qualifié, je crois, de petit commerçant de la haine. Voilà, ça peut être une autre façon de le qualifier.
Mais tenez, justement, on va écouter Manuel Valls. Le propos n'est pas très long, mais vous allez voir pourquoi j'ai retenu ce son, cette interview de Manuel Valls qui est passée hier matin sur Europe 1.
Personne ne peut être au-dessus des lois et je sais combien je peux compter sur la garde des Sceaux, sur Christiane Taubira pour mener là aussi ce combat et sur l'ensemble des services de l'État pour faire en sorte que M. Dieudonné Mbala, qui tente d'organiser son insolvabilité pour s'affranchir de sanctions pénales et ne pas payer les amendes, eh bien soit obligé de payer ses amendes. Il a été condamné.
Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui l'appelle pour le coup Monsieur Dieudonné Mbala, c'est son nom. C'est peut-être une façon d'en faire moins un comique et plus un justiciable comme les autres. Denis de Montpion.
Je pense que je ne sais pas ce que Manuel Valls a dans la tête, puisque en effet, il l'a qualifié d'abord de commerçant, mais en tout cas, le cas Dieudonné pose la question du communautarisme. Pourquoi ? Parce que récemment, il y a eu à Paris. L'ancien avocat, puisqu'il a été radié du barreau de Paris, Karim Achoui. Qui avait été victime d'une agression, ses agressions ont été jugées, etc. Et il est apparu, tout ça est passé inaperçu, mais Dieudonné est venu lui prêter main forte, le soutenir au cours de ce procès, avec un nombre imposant de gros bras, d'ailleurs.
Il est toujours très bien entouré quand il arrive au palais
de
justice.
Parce que la veille de son procès, enfin du procès, puisque ce n'est pas le sien, Karim Achoui, qui essaie de se refaire une santé ou une virginité, je ne sais pas, a créé la Ligue de défense des musulmans. Ce qui me fait penser à ça, c'est que tout à l'heure, vous évoquiez la Ligue de défense juive, c'est-à-dire que
violent.
Il y a toujours chez, depuis quelques années, en tout cas chez Dieudonné, cette volonté de, assurer, et c'est d'ailleurs l'objet de ce mouvement, de cette association, cette Ligue, c'est maintenant chaque propos, chaque trait d'esprit ou sarcasme ou raillerie à l'encontre des musulmans devrait être poursuivi. Et donc, Dieudonné, depuis maintenant pas mal de temps, il a la volonté de toujours mettre sur le même plan les attaques contre les musulmans et les attaques contre les juifs. Donc il y a toujours ce souci-là. Et là,
il veut faire un miroir.
Il faut dire que ça apporte de l'eau à son moulin, cette histoire-là. Puisque...
Dans le numéro de la semaine du Nouvel Observateur, vous consacrez donc la une, enfin un petit coin de la une en haut à droite, à enquête sur Dieudonné, enquête sur un antisémite. Vous choisissez donc, c'est un choix de le qualifier d'antisémite.
Écoutez, il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit un papier sur Dieudonné à ce procès, justement. Et je l'ai qualifié d'humoriste antisémite, puisque de toute façon, il a été condamné. Donc, il n'y a rien d'erroné à cela. Quand vous êtes condamné pour escroquerie, vous êtes un escroc. Ah
oui, enfin, Maître Lorvo.
Il y a de la rédemption aussi, hein, une fois que la peine est purgée.
Il a été multirécidiviste. Hein.
Oui.
Et il y a des procédures en cours.
Mais c'est un choix journalistique
bien
assumé.
Sûr, bien sûr.
La qualification. Ça veut dire que, selon vous, les journalistes sont là pour mettre la plume dans la plaie. On connaît la formule célèbre. Ils sont là pour dénoncer. Est-ce que vous vous êtes interrogés, tous les trois, dans vos conférences de rédaction respectives? Tiens, mais est-ce que Manuel Valls, lui-même, n'est pas là pour faire un peu de récupération politique entre Noël et Jour de l'An? Valls a été accusé d'être peut-être moins tendre que Christiane Taubira. Bon, là, il se donne une belle image de militant antiraciste. Vous avez réfléchi à cette dimension-là, autour de Manuel Valls? Adrien Séléka.
Bien sûr, la première réaction un peu développée qu'on a faite aux annonces de Manuel Valls, c'était déjà de dire que ça allait probablement, en tout cas la réflexion sur l'interdiction de ces spectacles, pas servir à grand-chose si l'objectif initial, c'était de couper l'arbre sous le pied à cette communauté qui se crée autour de Dieudonné. Parce que, et c'est ce qu'on a cherché à montrer en tout cas avec plusieurs articles, l'audience de Dieudonné, elle est dans ses spectacles, mais dans ses spectacles, ça va être quelques centaines, quelques dizaines de personnes, mais elle est quand même plus là sur Internet. Mmh. Et sur ce plan-là, les premières déclarations de Manuel Valls ne sont pas pertinentes.
François Ducroux, pour France 2, souhaite réagir.
Moi, je pense qu'il ne faut pas... On s'intéresse trop à Dieudonné en tant que personne. On en fait une icône. On en fait finalement un anti-héros et donc un héros. Je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il raconte sur la société française à travers les gens qui vont dans ces spectacles. Et moi, j'ai discuté avec pas mal d'entre eux sur des réseaux sociaux, sur Facebook. Ils sont intimement convaincus, c'est souvent des jeunes issus de l'immigration maghrébine, qui ont un profond sentiment d'injustice et qui sont, évidemment à tort, mais... intimement convaincu qu'il y a un système, que ce système, d'ailleurs c'est nous ici autour de cette table, les médias, les politiques, on est de connivence avec les sionistes, alors les sionistes ça paraît très bien ce que ça veut dire, mais en gros c'est Israël qui persécute les Palestiniens, et ça leur renvoie une image de leur propre sentiment de persécution et d'injustice aujourd'hui en France. Donc je pense que c'est cette question-là qu'il faudrait qu'on traite, plus que de savoir si Dieudonné est ceci ou cela. Je trouve ça, ils en sont convaincu, je trouve ça vraiment très intéressant d'aller sur ce terrain-là, parce que c'est quand même un peu dommage que cette frustration aujourd'hui se traduise par un antisémitisme qui semble tout droit sorti des années 30.
Et puis on s'est tous posé cette question dans nos conférences de rédaction. On en parle trop, on en fait trop. Est-ce que la vraie question à se poser, c'est pas ce que vous disiez, François Ducroux, la vraie question à se poser, c'est le choix des mots et puis des angles. Comment en parler? C'est ce que vous avez fait sur l'express.fr, Adrien Séléka, quand vous avez essayé de décortiquer le système Dieudonné, sa petite entreprise très lucrative.
Ah, il y a l'entreprise, il y a le réseau sur Internet. De toute façon, dès le début, là, on a cité éventuellement quelques communautés musulmanes. Il n'y a pas que ça, c'est vraiment un amas, c'est vraiment... si on essaye de faire un inventaire de la biosphère.
Des militants contre le mariage homosexuel.
Il y a un peu de tout, oui. c'est assez protéiforme. Il y a un peu de tout. Ça, c'est le cœur un peu du réseau. Il y a des gens qui sont engagés politiquement. Après, autour de là, effectivement, hein, ça peut être des personnes qui sont très éloignées des questions politiques, qui se reconnaissent pas forcément dans une de ces nombreuses chapelles. Même admettons qu'il y ait 10, 12 chapelles au début, ils se reconnaissent vraiment pas tous là-dedans.
Par provocation aussi, ça peut être.
Éric Chavreau.
Bien sûr.
Alors Eric, justement, puisque vous avez pris la parole, vous allez la garder. On en parle trop, on en fait trop, en parler c'est faire sa pub, et c'est vrai que Dieudonné a augmenté ses ventes de billets. Toutes ces questions-là, on se les pose dans les rédactions. Il y a toujours plus de visites sur Internet, et finalement, il semble bien que même critiqué dans les médias, Dieudonné parvient à rassembler un nouveau public via les réseaux sociaux, via le multimédia, Eric.
Oui, parce qu'en fait, il s'est créé son propre média, finalement, avec plusieurs strates. Le navire amiral, ça porte bien son nom, la Dieudosphère, donc ça, c'est le site, avec la promotion de ses spectacles, et puis aussi les produits dérivés dont je parlais tout à l'heure, mugs, t-shirts et autres. Et puis... un film, un long métrage, ça c'était l'an dernier, on n'en a pas forcément entendu parler, qui s'appelait L'Antisémite, ça veut bien dire son nom, film exclusivement diffusé sur Internet. Ce site, il a été piraté par un hacker qui se dit opposé à Dieudonné et qui se dit aussi opposé aux antisémites et qui en a lui-même profité pour... livrer comme ça les coordonnées des supporters, pour reprendre le mot, des supporters de Dieudonné. Ça, c'est la première strate, donc le vaisseau.
D'ailleurs, on ne sait pas trop s'il faut dire supporter, partisan, spectateur.
Sympathisant.
Ça aussi, c'est sympathisant. Là aussi, il y a une question. Alors oui, vous allez venir, Eric, il n'y a pas que le site. Hein.
Il y a la deuxième strate qui là, est composée du compte YouTube, qui a pris énormément d'ampleur, qui a été lancé en 2011. Et on y trouve ces fameuses vidéos « fait maison », entre guillemets, où Dieudonné s'adresse à son public depuis son bureau, avec souvent des objets un peu clés à l'écran. Alors, par exemple, un Shoah Hebdo, à peine caché sous son bras. Résultat, il y a des pics d'audience. Ça monte jusqu'à plus de 2 millions de vues. Ce qui fait dire d'ailleurs à Dieudonné qu'il attire ainsi davantage de public que des émissions de service public qui coûte une fortune aux contribuables. Le président du CRIF a voulu d'ailleurs responsabiliser Google, qui est propriétaire de YouTube, par rapport aux mises en avant de ces vidéos. Mais il faut savoir que ces mises en avant, elles se font par des algorithmes, mécaniquement quasiment.
Ce n'est pas une action humaine.
Voilà. Et après, il y a une autre strate, les réseaux sociaux en eux-mêmes. Il y a la page Facebook de Dieudonné, où d'ailleurs il apparaît, alors c'est encore une autre image de Dieudonné, il apparaît en tché, on se demande un peu pourquoi, mais, et il rassemble là plus de 400 000 fans.
C'est beaucoup ça ?
Pour donner une image, c'est à peu près ce que regroupe France Culture, c'est beaucoup. Et là, alors, c'est du relais énormément d'images de quenelles par des particuliers et aussi de tweets de personnalités, alors de soutien plus ou moins équivoque. Un des derniers en date, c'est le footballeur Samir Nasri. Et il y a également, d'ailleurs, Twitter où, là, Dieudonné rassemble environ 40 000 abonnés. Ça, c'est pour tout ce qui le concerne, lui, directement. Et on l'a déjà évoqué, et après... toute la nébuleuse de ceux qui le soutiennent. Donc là, le spectre, il est absolument énorme. Ça va des négationnistes aux pro-palestiniens, en passant par les sympathisants d'extrême droite, et puis énormément de particuliers. Et des gens qui veillent, puisque par exemple, il y a quelques jours, il y a une chroniqueuse de Canal+, qui a fait une chronique au Vitriol sur Dieudonné. Et elle a été, elle a reçu un déluge d'insultes.
Elle a été bâchée.
Voilà, trollée aussi, on pourrait dire, sur sa page Facebook et puis aussi via Twitter. Et résultat, elle a dû fermer les deux.
Ça joue beaucoup Adrien Sénéca.
Ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi sur la perception, je pense, qu'on peut avoir de Dieudonné aussi dès qu'on va un petit peu sur Internet. C'est-à-dire que dès qu'on en parle, on se retrouve quand même, il faut le dire, assez vite calomnié. Votre journaliste à complément enquête, il a reçu des menaces de mort, il a aussi été beaucoup calomnié. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et ça, il faut quand même en tenir compte. C'est quelque chose qui joue dans la perception qu'on en a. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, à partir du moment où on en parle, on ne peut pas, même si évidemment il n'est pas responsable juridiquement sur un plan pénal des insultes que peuvent proférer les personnes qui sont ses soutiens, c'est deux choses différentes. Par contre, il y a un moment où on se rend compte aussi que c'est ses propos à lui qui déclenchent ça, et même qui les encourage, j'ai envie de dire.
Et vous-même, journaliste à l'Express.fr et sur Twitter, si je ne me trompe pas, vous avez été accroché comme ça sur les réseaux sociaux ou...
Bien sûr, après, ce n'est pas le seul. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas qu'avec Dieudonné que ça arrive. Ça arrive avec le Front National, ça arrive avec des militants d'extrême gauche, ça arrive avec des militants extrêmes, même sur des causes qui ne sont pas extrêmes. Même pour les, voilà. Mais en tout cas, sur Dieudonné, c'est particulièrement cas, c'est particulièrement outrancier surtout.
François Ducroux, à l'issue de la diffusion de ce numéro de complément d'enquête, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le site internet de France 2, vous avez eu beaucoup de réactions négatives et ça vous fait réfléchir dans l'exercice du métier, dans la façon d'enquêter sur Dieudonné.
Des réactions négatives, on en a eu beaucoup. Yvan Martinet est un garçon courageux et taiseux, donc il n'a pas tout dit, mais je sais qu'il a reçu effectivement des menaces de mort. Moi, j'ai longtemps été contre le fait de faire des sujets sur Dieudonné, auparavant dans une autre émission, sur une autre chaîne, et je me disais que ce n'était pas la peine de lui donner une tribune. Entre-temps, son audience avait quand même fortement augmenté, et je trouve que le travail d'information qui a été fait par Yvan Martinet dans Complément d'enquête a été utile, parce qu'il a révélé une facette que tout le monde ne connaissait pas forcément de Dieudonné. D'ailleurs, cette blague, entre guillemets, sur Patrick Cohen, je ne crois pas savoir que lui-même la mettait sur son site YouTube ou sur ses pages Facebook. Donc, on a révélé là un aspect de sa personnalité, du problème qui... On a fait œuvre d'information, à mon sens.
Question collective, est-ce que vous donneriez la parole à Dieudonné dans vos médias respectifs, dans le cadre d'une interview en face à face, Denis de Montpion pour le Nouvel Obs?
Oui, tout à fait. Oui.
Vous lui avez proposé?
Vous savez que depuis quelque temps, il n'accorde plus d'interview, puisque compte tenu... alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, il était un petit peu boycotté quand il a commencé à déraper. Et donc, là, les médias l'ont clairement cessé de l'inviter et de l'interviewer. Mais c'est vrai que l'explosion des réseaux sociaux a changé la donne. Et d'ailleurs, il y a eu une période où son théâtre de la Main d'Or était à deux doigts de la faillite, hein, parce que il y avait quelques happy few qu'elle est là-bas, etc. Et puis, il a réussi à se refaire à travers sa provocation toujours plus marquée et justement le développement des réseaux sociaux et divers.
Sa maîtrise.
Oui, sa maîtrise très grande, absolument.
François Ducroux, est-ce que France 2 inviterait, a invité Dieudonné ?
Bien sûr, nous l'avons invité, nous avons proposé de venir sur notre plateau. Benoît Duquesne, qui dirige l'émission, a longuement discuté avec lui au téléphone et il a refusé sous plein de prétextes. Je crois qu'il n'a pas besoin de cette exposition-là pour exister, puisque, on vient de le dire, il a tous ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand finalement il accepte quand même l'exercice, il faut aller sur son terrain. Je pense à la journaliste de Rue 89 qu'il a interviewé récemment. Et elle a été reçue au Théâtre de la Main d'Or avec des caméras, un dispositif de type plateau télé qui était là un peu pour l'impressionner. Et puis elle s'est fait humilier aussi au passage. Il y avait Dieudonné, il y avait Alain Soral. Et clairement, c'était eux qui menaient le jeu. Ils veulent pas que ce soit l'inverse.
Denis de Montpion.
Permet un peu de se dire victime, quoi. On ne m'invite pas, les micros, les chaînes ne me sont pas ouvertes. C'est aussi une manière de prendre la pause là-dessus.
Il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que toute intervention médiatique de Dieudonné peut être reprise après sur le thème « Regardez, je suis respectable, je suis invité aussi ». Il a été invité sur Canal Street en février. Enfin, il n'a pas été invité, pardon. Canal Street s'est rendu, justement, encore une fois, au Théâtre de la Main d'Or, réalisé un court reportage sur lui, c'était un marionnettiste, etc. Et bien ça, c'est quelque chose qui est revenu ces derniers jours, quand on a commencé à reparler de ses excès, de ses petites sorties de route. Là, c'est réutilisé à chaque fois, tous ces extraits-là, même des extraits qui peuvent dater d'il y a 10 ans, des interventions médiatiques d'il y a 10 ans, c'est retenu et c'est utilisé pour, à chaque fois, justifier aussi ce qu'il peut dire par la suite. Et ça peut être aussi monté en votre défaveur.
Merci beaucoup, Adrien Sénéca, journaliste à l'Express.fr. Tous vos articles consacrés à Dieudonné sont donc à lire sur Internet. Merci, Denis de Montpion, rédacteur en chef du service Société au Nouvel Observateur. L'Obs est en vente dans les kiosques cette semaine. Et merci à vous, François Ducroux, rédacteur en chef de Complément d'enquête sur France 2. On peut revoir encore l'émission sur Pleuse, le site de réécoute ou plutôt de revisionnage de France Télévisions. Merci à Fabrice Lorvaux, merci maître. Et merci à Éric Chavroux, chroniqueur multimédia sur France Culture. Le secret des sources, une émission de Jean-Marc Four, présentée cette semaine par Frédéric Mettezo. Préparation Mathias Mégy, réalisation Vincent Abouchard. À la technique, Pierrick Monsigny. Le débat continue sur franceculture.fr, sur Twitter et sur Facebook. À 9h sur France Culture, le journal de la rédaction vous sera présenté par Olivier Denré. À 9h05, réplique Alain Finkielkraut. Peut-on encore aimer l'Europe avec la députée européenne centriste Sylvie Goulard et Jean-Pierre Chevènement. On reparlera du discours de Dieudonné et de sa quenelle tout à l'heure dans le journal de 12h30 avec la chronique mot à mot d'Antoine Mercier. Encore une fois, toute l'équipe du Secret des Sources vous souhaite une très belle et bonne année 2014 à vous et à tous ceux que vous aimez. Tout de suite, notre rembobinage.
Je trouve que le travail d'information qui a été fait par Yvan Martinet dans Complément d'enquête a été utile parce qu'il a révélé une facette que tout le monde ne connaissait pas forcément de Dieudonné. D'ailleurs, cette blague entre guillemets sur Patrick Cohen, je ne crois pas savoir que lui-même la mettait sur son site YouTube ou sur ses pages Facebook. Donc on a fait œuvre d'information à mon sens.
Ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi sur la perception, je pense, qu'on peut avoir de Dieudonné aussi dès qu'on va un petit peu sur Internet. C'est-à-dire que dès qu'on en parle, on se retrouve quand même, il faut le dire, assez vite calomnié. Votre journaliste à Complément d'enquête a reçu des menaces de mort, il a aussi été beaucoup calomnié. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et ça, il faut quand même en tenir compte. C'est quelque chose qui joue dans la perception qu'on en a. C'est-à-dire que même si, évidemment, il n'est pas responsable juridiquement sur un plan pénal des insultes que peuvent proférer les personnes qui sont ses soutiens, c'est deux choses différentes. Par contre, à un moment, on se rend compte aussi que c'est ses propos à lui qui déclenchent ça, et même qui les encourage.